Alors, ce qu'on va voir ensemble pendant l'heure de conférence, on va voir quelques points clés autour de ces réseaux, à quoi servent ces réseaux en fait pour les entrepreneurs. Ensuite, on va faire un point sur quels sont les leviers en fait pour projeter son expertise en utilisant LinkedIn et Viadeo. Comment on peut trouver des clients, ce sera le troisième point qu'on va aborder, et là aussi en se concentrant en fait sur LinkedIn et Viadeo, et on finira en fait sur Twitter. Et comment on peut utiliser Twitter pour asseoir son expertise et également développer ce qu'on appelle la communication d'influence, donc des liens, être en relation avec des influenceurs, des journalistes, des blogueurs par exemple. En fait. Alors ça va être un peu le marathon quand même pendant une heure, mais on va voir ces quatre points. Alors à quoi servent ces réseaux? Et en fait, quand j'ai interviewé en fait des entrepreneurs, alors même avant qu'on voit ce slide-là, quand j'ai interviewé des entrepreneurs, j'ai vu qu'il y avait énormément d'usages différents de ces réseaux, quel que soit le secteur d'activité et la cible de clientèle en fait. Donc tout le monde y trouvait un petit peu son compte. Ça veut dire que dans ce qu'on va voir, il y a des choses où vous allez vous dire « ben oui, absolument, ça me correspond » et d'autres où « ben pas nécessairement en fait ». Et le point important quand on aborde ces réseaux, c'est qu'il n'y a pas de « il faut absolument faire ça ». Il faut absolument faire ce qui est bien pour vous en fait, par rapport à vos objectifs de communication, par rapport à vos cibles de communication, par rapport à vos phases de maturité également en fait. Donc ça va être le point essentiel. Je vais faire juste un sondage rapide. Qui parmi vous est retourné sur LinkedIn dans les 30 derniers jours? Sur Viadeo? Ok. Sur Twitter? Ok. Donc on a un peu une idée. Donc LinkedIn en usage prioritaire, Viadeo toujours, et Twitter à peu près au même niveau que Viadeo. Alors on va voir quelques chiffres clés en fait autour de ces plateformes. Les chiffres que l'on a, les chiffres officiels qui sont communiqués par la plateforme sont des chiffres de nombre de membres, et en fait on a LinkedIn Viadeo à peu près au même niveau. Si vous voulez choisir entre LinkedIn Viadeo, regardez là où votre réseau relationnel est actif. En fait, c'est le meilleur moyen en fait de le voir, et en d'autres termes, vous regardez d'où viennent les demandes de connexion. Si elles viennent prioritairement de LinkedIn, c'est que c'est sur LinkedIn que vous allez concentrer votre action. Si elles viennent prioritairement de Viadeo, c'est sur Viadeo. Si elles viennent des deux côtés, il faudrait être actif sur les deux plateformes, sachant que toutes les stratégies qu'on va voir ensemble en fait, sur LinkedIn Viadeo, on peut faire exactement la même chose sur les deux plateformes. En fait. Donc, il suffit de dupliquer l'effort dans beaucoup de cas. Pour mettre ce chiffre-là en perspective, un autre chiffre, c'est le nombre de cadres en France, alors que c'est juste un point de référence pour se dire est-ce que 11 millions et 10 millions, c'est beaucoup, c'est pas beaucoup en fait. C'est beaucoup. Twitter, on est sur un autre usage en fait de Twitter. Twitter, c'est le média de l'immédiateté. C'est un outil qu'on utilise en fait beaucoup en mobilité. En fait, on a l'application Twitter qui est téléchargée sur son portable. Et du coup, en fait, les journalistes en ont fait une source d'information. Ils font leur travail de journaliste après, hein, ils recoupent l'information. Mais néanmoins, c'est devenu un endroit en fait, où les journalistes sont très présents. Vous avez plus de 70% des journalistes qui sont présents et actifs sur Twitter. Ils sont actifs également pour une deuxième raison, et c'est les journalistes français, ça, c'est une étude pour la France. Hein. Ils sont actifs pour une deuxième raison, c'est qu'ils ont bien compris que Twitter, ça devenait un outil pour diffuser leurs articles, en fait, pour augmenter le nombre de vues sur leurs articles quand les articles étaient postés en ligne. Donc ça veut dire que dès qu'un journaliste écrit quelque chose, que cet article est publié sur Internet, il va le repartager sur Twitter. Et c'est pour ça que Twitter, ça devient un outil extrêmement intéressant, simplement en veille, pour se tenir au courant, mais même de votre actualité professionnelle. Donc on est bien loin de l'image qu'on peut avoir de Twitter, où c'est un espèce de gros blabla avec des tas de choses pas du tout intéressantes. Il se trouve que dans nos univers professionnels, il y a énormément de choses intéressantes qui sont partagées en fait sur Twitter, et ça peut littéralement devenir votre revue de presse en fait, quotidienne que vous transférez un petit peu sur Twitter. Facebook, et c'est le seul slide sur lequel on va parler de Facebook. Facebook, c'est devenu un média de référence. Hein. Vous avez plus de 32 millions de Français qui sont présents et actifs sur Facebook, donc qui retournent au moins une fois par mois dans leur interface, et la plupart d'entre eux y vont quotidiennement. Facebook, c'est un excellent outil quand on s'adresse à une clientèle de grand public. D'accord ? Pourquoi ? Parce que Facebook appartient à la sphère privée. Donc quand on parle de la dernière connexion de la Redoute, il n'y a pas de problème à ce qu'on parle sur Facebook, moi en tant qu'utilisateur de Facebook. En revanche, si on essaye de me vendre du conseil en marketing ou du conseil en placement financier, ce ne sera pas forcément la même logique en fait. Sur Facebook. Donc on est vraiment, pour ceux d'entre vous qui êtes ce qu'on appelle en B2C, donc vous vous adressez à une cible de particuliers, Facebook va être pertinent pour communiquer avec vos clients. LinkedIn et Viadeo n'en resteront pas néanmoins inutiles, vous allez pouvoir les utiliser, mais pour d'autres usages en fait. Et les usages donc de LinkedIn, Viadeo, Twitter, vous avez en fait 7 usages de ces outils par les entrepreneurs, l'entretien du réseau relationnel professionnel, ce sont des extensions de réseau en fait ces outils-là, donc ils vont vous permettre de rester en contact avec votre réseau professionnel dans la vraie vie et de le développer. Trouver rapidement d'autres professionnels quand on est entrepreneur, on a à faire beaucoup de choses, mais dans certains cas on va se faire accompagner sur certaines problématiques. Donc typiquement LinkedIn Viadeo, ça va être un endroit où je vais pouvoir identifier et entrer en contact avec des professionnels qui m'intéressent, se tenir au courant, faire de la veille, et là on verra tout l'intérêt de Twitter, clairement. Sur LinkedIn Viadeo, je vais surtout me tenir au courant de l'évolution professionnelle de mes contacts professionnels, de mon réseau professionnel. Twitter, dans certains cas, va être un endroit où je vais pouvoir répondre aux questions et aux remarques en fait, de mes clients, et ça, quel que soit le business. Alors, parce que certains d'entre nous, on est dans des secteurs d'activité où nos clients vont être actifs sur Twitter, et on va pouvoir les écouter ou répondre à leurs questions sur Twitter. Donc ça nous fait un quatrième usage en fait, de ces réseaux. Créer une relation avec des influenceurs, le dernier point en fait, de cette conférence. Se faire connaître, et c'est là qu'on va démarrer en fait, comment on utilise notamment LinkedIn Viadeo dans une logique de personal branding ou de professional branding en fait, pour se faire connaître, pour développer la notoriété et l'image, en fait notre notoriété et notre image, et puis faire du développement commercial, et on verra deux tactiques aujourd'hui en fait pour utiliser ces réseaux afin de trouver des nouveaux clients en fait, tout simplement. Donc je vous propose qu'on démarre, on va se centrer sur les trois derniers. Les 5 premiers peuvent être utilisés quel que soit votre secteur d'activité. Les 2 derniers, c'est plutôt quand on s'adresse à une clientèle de professionnels ou d'entreprises. Faire connaître son expertise via Viadeo et LinkedIn. En fait, on va utiliser 3 leviers pour le faire. On va travailler son profil dans un premier temps. Donc, il faut qu'on ait un profil qui reflète ce qu'on a envie de dire et qui soit trouvable facilement en fait, par le réseau de LinkedIn et de Viadeo, le moteur de recherche. Deuxième levier, diffuser de l'actualité de manière régulière. Et troisième levier, être en contact avec les bonnes personnes. Parce que globalement, si on n'a pas le bon réseau sur LinkedIn et sur Viadeo, ça ne sert pas à grand-chose de faire les 2 premiers, parce que vous allez à nulle part. Donc on va faire de l'activité, mais pas auprès des bonnes personnes. Alors, on va voir comment ça s'architecte, tout ça. Et la première chose qu'on va voir, c'est comment on rend notre profil non seulement appétissant, mais surtout un reflet en fait, de votre expertise ou de vos expertises. La première idée clé, en fait, quand on est sur ces réseaux-là, c'est que votre profil, contrairement à ce qu'on entend souvent vous entendez les gens vous dire « Oui, j'ai mis à jour mon CV sur LinkedIn ou sur Viadeo », ce n'est pas le sujet, en fait, quand on est entrepreneur. Quand on est entrepreneur, quand on est à son compte, quand on est indépendant, on va complètement se distancier avec cette logique-là. Et notre profil ne sera pas un CV, notre profil, ça va devenir un mini-site de présentation de notre offre. Et là, il y a une vraie valeur autour de ça. Même quand vous êtes dans la phase projet, avant de vous lancer dans la construction de votre site Internet, vous aurez à un moment besoin de votre site Internet, mais ça peut être intéressant même d'utiliser ces profils pour un peu tester la formulation de votre offre, votre positionnement. Laissez tout ça vivre de manière à ce qu'au moment où vous êtes prêt, où vous avez bien construit votre offre, vous puissiez le déployer. Et vous aurez eu cette première présence en fait, sur LinkedIn et sur Viadeo qui vous permettra en fait, de bien présenter ce que vous faites et ce que vous apportez. Donc ça, c'est vraiment le premier point. Deuxième point, quand vous regardez votre profil sur ces réseaux, sur LinkedIn et sur Viadeo, vous essayez d'atteindre 2 objectifs. Le premier objectif, c'est de faire comprendre avec les gens avec lesquels vous êtes en contact ce que vous faites. Alors ça, c'est d'autant plus vrai avec les gens de notre ancienne vie, en fait. Quand on n'était pas du tout entrepreneur, quand on était parfois salarié d'une grosse boîte, ben, eux, ils comprenaient bien ce qu'on faisait quand on était collègue avec eux, quand c'était nos clients. Mais en revanche, une fois qu'on passe à l'entrepreneuriat, des fois, c'est le chien sur la lunette arrière quand on leur explique ce qu'on fait, quoi. Ils font ça, ils ne comprennent pas trop. Donc, on va essayer de repréciser sur le profil. Ben, c'est vraiment ce qu'on va vouloir faire. Donc, l'objectif, notre objectif par rapport à ça, en fait, quand on travaille ça, c'est d'être recommandé. C'est que les gens qui nous aiment bien, parce qu'on était, bon, on faisait bien notre boulot en fait, de notre vie antérieure, bah, quand ils pensent à un projet, quand ils entendent l'un de leurs contacts dire « Ah ben moi, justement, je cherche quelqu'un qui », ils pensent à nous, en fait. C'est ça qu'on essaye de faire quand on travaille le profil dans ce sens-là. Et le deuxième point, notre deuxième objectif, en fait, vis-à-vis de notre profil, par rapport à notre profil, c'est d'apparaître dans les résultats de recherche quand quelqu'un fait une recherche sur LinkedIn ou sur Viadeo sur une expertise particulière. Et nous, évidemment, donc la personne qui fait une recherche, elle a un besoin. Et nous, ce qu'on veut, c'est qu'il nous trouve, en fait, quand ce besoin est exprimé et cherche le professionnel qui correspond à ce profil-là. Donc, on va voir comment on inscrit, en fait, cette logique. Alors, on va se dire les choses, hein. Le premier objectif, il est relativement facile à atteindre quand vous formulez votre offre, d'accord ? Et après, on va rappeler à nos contacts nos domaines d'expertise, mais c'est relativement simple à faire sur le profil. Ce qui est plus compliqué, c'est le deuxième objectif, en fait, c'est d'être trouvé par rapport à des recherches données. Et pour que ça fonctionne, en fait, il faut bien définir son expertise, en fait. Ça va être le nœud un peu gordien. Et la manière dont on va le faire, c'est effectivement, on va définir son expertise. On va voir une tactique, en fait, pour bien définir son expertise. On va retraduire cette expertise en mots-clés. Et on aura, en fait, une liste de mots-clés. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous étaient à la conférence Google juste avant. Oui. Non. Oh. Donc, voilà, quelques-uns. Et en fait, ils ont dû insister sur les listes de mots-clés. Et voilà. Donc, nous, on va avoir exactement la même logique, en fait, sur notre profil. Donc, on va traduire cette expertise en mots-clés. Et ensuite, ces mots-clés, on va les mettre à plein d'endroits, y compris des endroits stratégiques, en fait, sur notre profil. Et on va pas hésiter à se répéter, en plus. Hein. On va pouvoir les mettre à différents endroits. Pour définir son expertise, la première idée clé, c'est ne pas rester généraliste. Alors, trop souvent, en fait, ce que vous vous dites, c'est ben, « si je suis trop précis, les gens ne vont pas penser à moi pour cet autre truc dont je suis expert ». C'est souvent le réflexe qu'on a. Et on va voir que ce n'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Donc, on va définir cette expertise. Et pour affiner une expertise, ce qui est utile, c'est ben, d'ajouter des mots, en fait. Donc, l'exemple que je vais prendre, c'est je fais du conseil en marketing. Et globalement, si vous dites je fais du conseil en marketing, des gens qui font du conseil en marketing, mais il y en a des milliers, en fait, en France. Donc, la concurrence est rude. Et là, on n'aide pas vraiment, en fait, nos contacts, hein, parce que globalement, nos contacts, quand on dit je suis conseil en marketing, ben oui, mais c'est du marketing auprès de quel type d'entreprise ? Est-ce que vous avez des spécialisations sectorielles ? Est-ce que vous êtes au courant du dernier truc, l'inbound marketing, ça vous parle ? Le brand content, ça vous parle ? Ou vous êtes plutôt le branding, le naming, et tous les mots-clés en fait, de notre industrie qui vont ressortir. Donc, en fait, on a besoin de préciser. Et ce qu'il vaut mieux faire, en fait, plutôt que de dire « je suis conseil en marketing », c'est dire « je suis conseil en marketing avec une expertise, non ?» Et on a trois domaines, en fait. Et ces trois domaines sont des domaines extrêmement précis. Donc ça, c'est vraiment une approche qui peut être intéressante. L'autre approche, hein, c'est ce qu'on voit en haut de slide, hein, votre domaine d'expertise plus le secteur d'activité. Donc, oui, je suis conseiller en marketing, mais dans le secteur des transports, dans le secteur de la pharmacie, dans le secteur de ce que vous voulez. Mais préciser, en fait, le secteur d'activité dans lequel dont on est expert, en fait. Et ça, du coup, ça, c'est vraiment très riche en termes de mots-clés. Et en plus, ça va pouvoir orienter toute notre démarche par la suite. Vous le verrez, notamment avec qui on rentre en contact. mon secteur d'activité et ma cible, le marketing sur la cible des jeunes mamans, le marketing des seniors, le marketing des entreprises technologiques, le marketing en milieu bancaire. Un domaine précis, donc souvent là, vous allez retrouver ces mots-clés, les mots-clés dont on parlait. Donc c'est un peu les mots-clés qui sont précieux, sont les mots-clés qu'il faut le buzz à l'heure actuelle, parce que ça veut dire que vous avez en face des acheteurs qui vont rechercher des experts dans ce domaine-là. En ce moment, aux réseaux sociaux, tout le monde parle de Snapchat. Si c'est votre domaine et que vous avez une appétence avec le média et que vous comprenez comment ça fonctionne, ça peut être intéressant en fait, de rajouter en fait, ce média social sur votre profil, par exemple. Le secteur géographique peut être une précision intéressante. Alors, ou bien vous avez un secteur très précis et autant le définir, donc réduit géographiquement sur la France, ou au contraire, vous êtes sur une clientèle à l'international, et là, ça va être vraiment essentiel en fait, de préciser sur quel pays vous intervenez. Une pensée limitante quand on fait cet exercice, parce que quand j'anime des ateliers, c'est systématiquement le truc qui arrive, en fait, c'est la peur de rater des affaires. La peur de rater des affaires en étant très précis. Et en fait, souvent, les affaires qu'on raterait, on ne les raterait pas vraiment parce que c'est notre réseau qui nous les amène de manière assez spontanée et naturelle. Donc ça va continuer à arriver. Donc n'ayez pas peur dans votre profil d'être très précis. Et on va voir qu'on est très précis en début de profil, en fait, dans la zone du haut notamment, où on a un espace extrêmement limité. Donc la zone qu'on appelle la zone de profil, le titre, en fait, la première phrase qui nous définit en fait sur le profil. Donc on verra comment on la travaille. Donc une fois que vous avez défini votre expertise, vous allez maintenant travailler sur des mots-clés qui sont liés à l'expertise, mais comme quand on travaille sur le référencement naturel d'un site internet, en fait, tout simplement. Donc là, vous voyez quelques exemples de mots-clés dans un secteur particulier, le conseil en marketing. Et ensuite, ces mots-clés, vous allez les répéter. Donc dans votre liste de mots-clés, ce que vous allez faire, c'est que vous allez isoler en fait, les mots-clés qui sont les mots-clés absolument prioritaires. Il peut y en avoir 2, 3, 4 en fait, mots-clés absolument prioritaires. Vous allez avoir des mots-clés secondaires, on ne va pas les placer au même endroit. Les mots-clés prioritaires, on va les répéter dans le profil. Les mots-clés secondaires, on va les mettre à d'autres, on va un peu les émailler, mais sans avoir autant de répétitions. Et en fait, les endroits qui sont les plus stratégiques pour votre profil, c'est d'une part cette fameuse zone de titre en fait, de votre profil. La partie en résumé de votre profil, donc il y a un encart spécifique dans lequel on peut présenter un petit peu ce que l'on fait. Les expériences avec un focus particulier sur l'expérience en cours qui correspond à votre entreprise, l'entreprise que vous avez créée ou l'entreprise que vous allez créer, puisque vous pouvez très bien en fait, annoncer, parler de votre projet, la constitution de votre projet, c'est votre expérience en cours. Et également un champ d'expertise compétences que l'on peut exploiter. Et donc on va répéter en fait les mots-clés prioritaires dans ces différentes zones. Quand vous faites ça, on a un profil optimisé en fait par rapport à un objectif très précis qui est de projeter en fait votre expertise. Le titre de votre profil, sur Viadeo, vous avez 80 caractères, espace compris, pour vous exprimer. Sur LinkedIn, vous avez 120 caractères, c'est peu et beaucoup à la fois en fait. Vous allez avoir deux options quand vous travaillez votre titre en fonction de qui vous êtes. La première option, vous vendez moi, vous. Donc, c'est ce que je fais moi en fait. Donc moi, je n'ai pas mis en avant le nom de ma société parce que ce n'est pas là que je mets le focus en termes de développement de notoriété. Moi, ce que je veux, c'est qu'on me reconnaisse comme un expert dans un domaine bien précis. Moi, Valérie Marc. Donc moi, j'ai pris la première option. Donc ce que je fais, c'est que je dis quel est mon métier en injectant en fait des mots-clés. Ce que vous pouvez rajouter, c'est à quel type de client vous vous adressez, quand c'est pertinent pour vous, et également quand c'est pertinent pour vous, quand utile, la zone géographique. D'accord ? Le point clé ici, ça va être vraiment de placer vos mots-clés prioritaires dans cette zone-là. Si vous avez deux activités, vous mettrez, il y a deux options, vous mettez l'activité prioritaire en début de phrase et l'activité secondaire à la fin, et vous mettez une barre de séparation en fait, entre les deux pour que les gens comprennent bien quelle est la différence en fait. Ou bien vous dites, LinkedIn ou Viadeo vont m'aider prioritairement à recruter tel type de clientèle pour telle activité. Et vous dites, l'activité secondaire, je ne vais pas la mettre en avant là-haut en fait. Donc vous voyez qu'on va devoir faire des choix en fait dans cette première partie, mais les choix vont nous aider à être plus clairs en fait dans notre présentation. Deuxième option, le nom de l'entreprise est essentiel. Donc on a eu l'exemple de Patrick Robinson tout à l'heure avec Citigoo. Ben, clairement, lui, il va mettre en avant Citigoo parce qu'il veut qu'on augmente, qu'on comprenne, en fait, qu'on connaisse le nom de son entreprise. Lui est moins important que son entreprise, c'est ça qu'il veut mettre en avant, en fait. Alors, j'ai pas vérifié avec lui, mais je suppose que c'est l'esprit dans lequel il travaille son profil LinkedIn. Donc ce que l'on fait dans ces cas-là, ben, on dit fondateur de Citigoo, on donne son rôle, en fait, dans l'entreprise. Et après, on va les présenter, en fait, ce que fait l'entreprise. Donc on a deux structures de titres qui sont possibles. N'ayez pas peur d'utiliser les 120 caractères de LinkedIn ou les 80 caractères de Viadeo. Hein, parce que parfois, certains d'entre vous allez vous dire, oui, mais ça fait beaucoup de texte, les gens le lisent. Les gens lisent le début, hein, comme toujours, donc on va mettre les informations prioritaires au début. Mais globalement, il faut optimiser au maximum. Ce titre-là, c'est le titre qui est d'une part le plus visible, parce que quand vous faites une demande de contact, le titre est rappelé. Quand vous apparaissez dans les résultats de recherche, le titre est rappelé. Et quand vous partagez de l'information, le titre est rappelé. Donc, du coup, il est aussi visible que votre nom et votre photo. D'accord ? Donc il est essentiel, en fait, ce titre. Et deuxième point, deuxième raison pour laquelle le titre est important, et c'est pour ça que c'est important aussi de mettre des mots-clés en fait, dans ce titre-là, c'est qu'il est extrêmement bien référencé par les moteurs de recherche de LinkedIn et de Viadeo. Donc si vous ne mettez pas un mot-clé prioritaire pour vous dans ce titre, là vous ratez vraiment une opportunité de remonter dans les résultats de recherche. Je vous donne un exemple de titre long. Donc là, j'ai pris le mien, non pas parce qu'il est parfait, mais juste pour illustrer. Deux petites astuces visuelles. Les règles américaines. On peut passer en majuscule la première lettre de chaque mot pour un peu cadencer en fait la lecture de la phrase. Ne passez pas tout en majuscule. La majuscule est extrêmement difficile à lire, en fait. Dans les mots complets en majuscule, on a du mal à les lire. Donc, c'est bien passer en majuscule la première lettre de chaque mot. Et puis, vous pouvez mettre une barre verticale également pour isoler un petit peu les différents mots, en fait, de votre présentation. Vous avez une deuxième zone qui va être intéressant de travailler. C'est la zone en résumé. Et dans cette zone en résumé, alors l'encart en résumé, il est par défaut sur Viadeo et il faut l'activer sur LinkedIn. Donc vous avez une série d'encarts en fait sur LinkedIn que vous pouvez rajouter à votre profil et l'encart en résumé en fait partie. Alors attention, une fois que vous l'avez activé, vous ne pouvez pas le supprimer. Donc activez-le quand vous avez. Enfin, ce que je vous conseille, c'est de travailler votre copie et une fois que vous êtes prêt en fait à mettre à jour votre partie en résumé, vous allez l'activer en fait tout simplement. Donc ça sur LinkedIn. Ce que vous allez faire dans cette partie-là, c'est là que vous allez présenter votre offre. Donc, quel service vous apportez, à qui ou quel produit hein, vous marketez, à qui ces produits ou ces services s'adressent. Donc, ça, c'est le deuxième point. Si vous avez déjà des clients, quelques références clients, ou bien si vous appuyez sur des expériences antérieures, ben vous le dites, hein, quand qu'on fait du conseil, qu'on fait de la formation, qu'on fait du coaching, et qu'on démarre, ben on n'a pas encore une expérience en tant que consultant formateur coach. En revanche, on peut avoir fait des choses qui sont complètement liées, donc c'est les éléments de réassurance, en fait, un petit peu sur le profil. On va mettre en avant les choses qui vont rassurer. Le lecteur en fait de notre profil quand on dit qu'on peut apporter tel type de produit ou tel type de service à tel type d'entreprise en fait. Donc ça peut être tant d'années d'expérience dans ce domaine préalablement. N'oubliez pas de rajouter des mots-clés liés à votre expertise dans cette partie en résumé. Vous avez même la possibilité dans certains cas de mettre mes expertises et de mettre une liste de mots-clés si vous le souhaitez en fait dans cette partie résumé. Là aussi, pourquoi ? Parce que c'est bien référencé en fait, par les moteurs de recherche de LinkedIn et de Viadeo. N'hésitez pas aussi à mettre vos informations de contact dans cette partie-là. Alors vous mettez ce qui vous intéresse. Hein. Si vous voulez être contacté par mail, vous pouvez laisser votre mail. Par téléphone, ben, votre téléphone. Si c'est le site internet, vous mettez le site internet. Mais c'est un peu dommage d'obliger l'autre à rentrer en contact avec vous pour pouvoir vous parler en fait. Vous lui demandez trop d'efforts. Donc, au contraire, ce que vous avez intérêt à faire, c'est dans cette partie-là, bien mettre en avant vos informations de contact. Une petite astuce, donc ça, là pour le coup sur LinkedIn, quand vous êtes sur le mobile en fait sur LinkedIn, dans la partie en résumé, LinkedIn ne donne que les 40 premiers caractères en fait de la partie en résumé en vision directe sur le profil. Donc ce que vous avez intérêt à faire dans ces cas-là, c'est ou bien vous mettez des mots-clés tout au début qui viennent renforcer en fait ce que vous avez mis auparavant, ou bien, et c'est encore mieux, vous pouvez mettre une phrase un appel à l'action, une phrase d'incitation à l'action si vous avez quelque chose à offrir. Et là, je vous ai mis à droite un exemple excellent d'un Américain, en fait. Et lui, ce qu'il met directement sur son profil, en haut de son résumé, c'est réserver 15 minutes de chat disruptif avec moi. Et il met un lien vers un logiciel, une solution, en fait, pour booker des rendez-vous avec lui directement. Et donc là, on est sur la vision mobile de son profil. C'est quelque chose que l'on voit directement. Je vous montre ici, là, ce que vous voyez dans la entourée en jaune. C'est extrêmement malin. Alors, ça, il faut évidemment préparer, être capable de livrer hein, ensuite derrière. Mais c'est extrêmement malin, en fait, comme formulation de partie en résumé. Et en dessous, il a mis d'autres choses. Hein, il a mis ce qu'il a porté. Mais du coup, on a vraiment envie, en fait, de passer à l'action tout de suite. Dans le champ expérience, vous allez vous concentrer d'abord sur l'expérience actuelle et ensuite vous allez approfondir les expériences passées. L'expérience actuelle, là aussi, les mots-clés sont extrêmement importants en travaillant bien le titre de l'expérience, en rajoutant une description si besoin. Mais là, vraiment, la loi du genre, c'est de rajouter des mots-clés dans les titres. Moi, le mot-clé B2B est extrêmement important pour moi. Je l'ai mis dans mon expérience actuelle. J'ai mis dans les expériences antérieures également pour optimiser le référencement de mon profil, en fait, sur ces mots-clés. Et dernier point, dernier endroit où on va pouvoir mettre des mots-clés, en fait, c'est dans la partie expertise. Donc ces encarts que l'on active, que vous avez intérêt à manager sur les deux réseaux. Et là aussi, éviter les mots-clés génériques, management, leadership, et aller sur des réseaux marketing ou communication, et aller sur des expertises extrêmement précises. Donc souvent, c'est deux mots. Hein. Une expertise précise, ça va être deux mots. Donc on va être marketing expérientiel plutôt que marketing tout court. Faites pas marketing une expertise, expérientielle une autre, parce que là, du coup, on n'a pas de lien entre les deux mots, en fait. Pour obtenir des recommandations, montrez l'exemple. Je vais recommander les autres et ils vont venir me recommander moi. Donc c'est un peu, c'est pas du donnant-donnant, hein, mais néanmoins c'est un peu en montrant l'exemple que les autres vont faire la même chose à notre égard. Quand vous recommandez, mon conseil, c'est recommander des expertises que vous avez effectivement observées. Parce que quand vous recommandez des expertises que vous n'avez pas observées, ça vous discrédite auprès de l'autre. Alors quand c'est quelqu'un que vous connaissez bien, il sait que vous l'avez fait pour lui faire plaisir, pour l'aider. Quand c'est quelqu'un que vous connaissez peu, là c'est vraiment maladroit en fait. Donc je valide des expertises que j'ai effectivement observées. Dernier point sur le profil, les petits plus pour rendre le profil encore plus appétissant. Sur les deux réseaux, vous avez la possibilité de rajouter une photo de couverture. Et là aussi, un exemple qui vient des États-Unis, de couverture qui est extrêmement maligne, puisque là, vous avez dans la photo de couverture, la consultante, l'experte en fait, de LinkedIn, a rajouté sa phrase de positionnement, son numéro de téléphone, le site internet. En fait. Donc elle a rajouté vraiment des informations pour qu'on ait envie de rentrer en contact avec elle. Et c'est extrêmement malin parce que je regarde le profil et je sais ce dont il s'agit et ça me donne envie en fait, d'aller plus loin. Autre point qui peut être malin là aussi sur LinkedIn, c'est si vous avez présenté en fait votre offre, si vous avez une présentation PowerPoint, ce que je vous recommande de faire, qui présente votre offre de produit ou votre offre de service, vous pouvez très bien l'héberger sur SlideShare. Alors SlideShare, c'est le YouTube du PowerPoint. D'accord, donc c'est une solution qui appartient à LinkedIn, mais qui peut être utilisée sur tous les réseaux et qui me permet de publier en ligne une présentation PowerPoint que j'ai bloquée hein, sous un format PDF, par exemple. Et ça, ce qui est malin, c'est de mettre alors, son portfolio, la présentation de son entreprise, la présentation d'une offre en particulier, de la mettre sous ce format-là, de l'héberger sur SlideShare. Dans LinkedIn, je peux intégrer en fait la présentation PowerPoint directement et sur Viadeo, je peux faire un lien vers cette présentation PowerPoint qui est hébergée sur SlideShare. Et du coup, c'est un moyen très malin, en fait, de servir notre offre, en fait, notre présentation. Quelques ressources, si vous voulez mettre puisque sur LinkedIn comme sur Viadeo, on ne peut pas passer de choses en gras, en fait, ou mettre en italique ou souligner. Donc, on est un petit peu désarmé quand on veut mettre un peu de symbolique ou faire ressortir des choses sur le profil. Donc là, en fait, vous avez deux ressources que j'ai mises en ligne sur mon blog, hein, mediassociauxpourentrepreneurs.com. Je les ai mises en ligne ce matin, en fait. Donc, vous avez le lien direct vers ces ressources-là sur le blog. Donc, vous pourrez retourner par la suite pour les trouver. Deuxième levier pour faire connaître votre expertise sur Viadeo et LinkedIn, c'est de partager des actualités centrées sur votre expertise. Alors là, c'est hyper simple. Le concept est simple. On l'a tous vécu dans la vie. On rentre dans le bureau de quelqu'un et au mur, je vais reprendre l'exemple du marketing, au mur, il a des tas de bouquins sur le CRM, la relation client, le marketing expérientiel. Intuitivement, on se dit, au mieux, c'est un sujet qui l'intéresse et souvent, c'est un sujet dans lequel il est expert. Et en fait, on va faire exactement la même chose sur LinkedIn et sur Viadeo, en fait. On va avoir la même logique. Parce que l'on va partager, les articles que l'on va partager, on va établir nos domaines d'expertise comme autant de preuves, en fait, de cette expertise. Monsieur Pavlov, à l'écran, et en fait, nous, ce qu'on cherche vraiment à faire, c'est établir un réflexe pavlovien auprès de nos contacts, les contacts avec lesquels on est lié, auxquels on est lié, en fait, dans LinkedIn et Viadeo, parce que à chaque fois qu'on partage un article sur une expertise particulière, en fait, notre nom devient associé, mais d'une manière un peu pavlovienne, en fait, à cette expertise en particulier. Donc, c'est là vraiment ce qu'on essaye de faire, en fait. Le partage directement sur la page d'accueil, en fait, de nos réseaux. L'objectif, si vous ne le faites pas, bah, commencez et essayez de le faire au moins une fois par semaine. Donc, c'est repérer un article intéressant dans la presse, en fait, tout simplement, la presse professionnelle, et le repartager. Ce qui est malin quand vous le faites au début, c'est de vérifier ce que vous avez partagé pour éviter toute erreur, donc de regarder un petit peu ce que vous avez fait. Et pour le faire sur LinkedIn, vous allez dans profil sur vos nouvelles, et sur Viadeo, c'est directement attaché, en fait, à votre profil. Ça apparaît sur votre profil en clair. En fait. Troisième levier, adopter une réelle stratégie de contact, toujours pour projeter cette expertise. En d'autres termes, c'est bien d'avoir une expertise, c'est bien de la projeter, mais il faut la projeter aux bonnes personnes. Donc du coup, si vous changez complètement d'industrie, si vous changez tout dans votre création d'entreprise, ben, vous allez vous reconstituer, en fait, le réseau qui correspond mieux davantage, en fait, à cette nouvelle activité. Si c'est dans la continuation, en fait, de votre expérience antérieure, ben, vous allez entretenir le lien. Mais dans les deux cas, il faut impérativement être bien connecté, en fait, avec différentes typologies de contacts. Donc le premier niveau, c'est: est-ce que je suis connecté avec mes contacts dans la vraie vie? Ça, c'est le premier niveau. Et c'est comme ça qu'on va vraiment l'utiliser. Et dans les contacts dans la vraie vie, vous avez le premier cercle, le deuxième cercle. Le premier cercle, c'est les gens, vous les appelez entre votre prénom et la voix. Ils savent qui vous êtes, en fait. Donc ça, c'est simple. Deuxième cercle, c'est le carnet d'adresses plus actif, en fait, dans l'année dans laquelle vous vous trouvez, dans les 2-3 ans dans laquelle vous vous trouvez. Et en fait, vous avez une ressource intéressante autour des perdus de vue. Donc vraiment réactiver les perdus de vue en rentrant en contact avec eux sur LinkedIn et sur Viadeo. Et ne pas oublier les nouveaux contacts. C'est-à-dire que si vous rencontrez des gens sur le salon aujourd'hui, ben, ce qui peut être intéressant, c'est pour pouvoir poursuivre les échanges, plutôt que de juste faire l'échange de carte de visite, ben, l'étape d'après, c'est de demander en contact sur LinkedIn ou sur Viadeo. Si vous ne faites pas ça, la carte de visite, elle va rester dans le tiroir, et au bout de 2 mois, ben, vous aurez oublié, en fait, comment vous connaissez cette personne, dans quel contexte vous l'avez rencontrée, et surtout, vous ne pourrez plus du tout, en fait, entretenir la relation, ce sera trop tard. Donc c'est vraiment un bon réflexe à avoir. Les enjeux par rapport à ça, c'est d'obtenir des recommandations, donc que les gens pensent à nous quand ils entendent parler d'un projet ou d'un besoin, et puis de voir qui peut nous mettre en relation avec qui, en fait. Donc ça, c'est vraiment le deuxième point. Une fois que vous avez fait ça, donc vous avez éclusé votre carnet d'adresses, hein, d'une certaine manière, et fait un travail de mémoire dans les expériences antérieures, hein, ce que vous pouvez faire, c'est demander en contact des gens que vous ne connaissez pas encore, mais là, on va complètement orienter nos demandes de contact, et on va les orienter avec une notion d'écosystème. Et votre écosystème, l'écosystème que vous ciblez, c'est l'écosystème de vos expertises. Alors, je ne parle pas juste des gens qui font le même métier que vous, hein, parce que là, du coup, on est sur des concurrents, ça va être moins intéressant. Mais ça peut être des gens qui sont dans des domaines connexes au vôtre, mais qui travaillent la même cible et dans lesquels il y a des synergies. Ça peut être aussi des clients qui sont des clients, des prospects, en fait, des clients potentiels qui sont intéressés, en fait, par ce domaine d'expertise. Pour étendre son réseau, dans ce cas-là, vous avez deux outils en fait, qui peuvent être utiles. La rubrique, les connaissez-vous, parce que vous allez avoir une pertinence, vous allez pouvoir notamment trouver des contacts de vos contacts, en fait, des niveaux 2 là-dedans, ou des gens qui sont pertinents sur des expertises similaires en fait, ou proches des vôtres. Et le deuxième outil là, pour le coup, qui n'est disponible que sur LinkedIn, il est possible en fait, sur LinkedIn de faire des recherches uniquement dans vos niveaux 2, en fait. Donc, par rapport à une expertise particulière, de regarder qui, au niveau 2, ou par rapport à une entreprise particulière, qui, au niveau 2, en fait, travaille dans cette entreprise-là. Et pour ce faire, vous allez dans la recherche avancée de LinkedIn, en fait, dans le moteur de recherche de LinkedIn pour trouver ça. Autre option, toujours dans la même logique, c'est que sur LinkedIn, il est possible de faire une recherche dans les contacts de vos contacts. Il suffit pour ce faire d'aller dans leur profil et d'activer en fait le petit moteur de recherche sur leur profil, en fait, sur leur contact dans leur profil. Donc ça, c'est vraiment deux ressources pour étendre votre réseau, mais dans une logique d'écosystème. En fait, et l'écosystème, c'est un peu je grenouille dans un secteur d'activité particulier ou dans un secteur d'expertise particulier. En fait. Donc en synthèse, pour avoir un profil qui projette vraiment votre expertise, pensez mots-clés, partagez régulièrement de l'actualité, hein, au moins une fois par semaine, et ciblez bien ce partage d'actualité sur vos domaines d'expertise prioritaires. Et troisième point, alignez votre réseau, travaillez votre réseau pour qu'il contienne les gens qui sont intéressants pour vous. Autrement, vous allez partager de l'information, mais qui n'ira pas nécessairement vers les bonnes personnes. Deuxième volet, comment trouver des clients avec Viadeo et LinkedIn ? Eh bien, on va avoir deux tactiques. La première tactique, c'est la tactique de la chasse. La deuxième tactique, c'est la tactique de l'attraction. La chasse, c'est simple. C'est à chaque fois que vous vous trouvez dans le cas de figure, vous vous dites « je veux rentrer dans telle entreprise pour leur vendre tel type de produit ou de service ». Voilà. Donc, une cible extrêmement précise. La seule chose qui vous manque, c'est que vous ne connaissez pas le décideur. Sur votre décision d'achat, vous ne savez pas qui va prendre la décision, vous ne connaissez pas. Donc vous savez quel est le titre, vous doutez que c'est en général le DAF, par exemple, qui prend ce type de décision. En revanche, vous ne le connaissez pas, vous ne l'avez pas identifié. L'attraction, on verra, l'attraction reboucle en fait, sur ce qu'on vient de voir, c'est qu'on va faire venir à nous des prospects potentiels. En fait. Donc on va travailler tout de suite sur la chasse, et la chasse, elle s'orchestre en trois étapes. La première étape, j'identifie ma cible nommément, donc qui je vais cibler, quelle est la personne qui est en charge de ce type de décision en fait. Deuxième étape, je vais rechercher des informations sur cette personne-là, et troisième étape, je vais l'approcher, je vais entrer en contact avec elle. Identifier la cible, privilégier dans les deux réseaux la recherche avancée. Donc, on n'a pas le temps d'aller dans les détails de la recherche avancée, mais vraiment notez-vous en fait d'aller voir tout ce qu'il est possible de cibler en fait dans cette recherche avancée. Surtout, vous avez en général la possibilité de renseigner des mots-clés sur lesquels vous lancez la recherche. Donc, une fois que vous avez en tête c'est le DAF sur tel nom d'entreprise, ben, vous allez taper DAF, le nom de l'entreprise, et si vous ne trouvez pas tout de suite, des variations, parce que c'est du déclaratif, donc ça dépend de la manière dont le décideur que vous visez a renseigné son profil. Donc on va être un petit peu imaginatif, on va un petit peu tâtonner en fait dans ce domaine-là. Deuxième étape, j'analyse le profil. Et globalement, quand vous analysez le profil de votre cible, alors on a tous l'habitude de faire la même chose. On regarde la photo, sympathique ou pas sympathique ? Ok, mais ça ne va pas nous aider à cibler, en fait. Ensuite, on regarde, est-ce qu'il y a des points communs ? Est-ce qu'ils sont passés par les mêmes entreprises ? Ou est-ce que je connais des gens dans ces entreprises-là ? Ou ils sont passés par les mêmes écoles ou universités ? Est-ce qu'il y a des points communs ? Et ça ne va pas suffire. En fait, ce que l'on cherche, c'est qu'on cherche des indices de deux choses. Est-ce qu'il est déjà, il ou elle, compétent sur mon domaine d'expertise ou pas ? Ou est-ce que je vais devoir un peu l'éduquer ? Et deuxième point, est-ce qu'il y a un intérêt en fait autour de ce domaine d'expertise ? Ou en d'autres termes, quels sont ses centres d'intérêt et ses domaines d'expertise à lui ? parce qu'on va bâtir notre démarche autour de cette découverte-là, en fait. Et pour faire ça, ce qu'il faut absolument voir, c'est aller voir d'une part les groupes auxquels il appartient, ça va être des indices, les compétences qui sont listées, les mots qu'il utilise ou qu'elle utilise en fait dans son profil pour essayer d'aborder justement cette notion d'expertise, et également l'actualité qui a été partagée par cette personne. Donc dans les deux réseaux, vous pouvez voir ce qui a été partagé par votre cible en fait, et c'est vraiment une source importante d'informations. Et on va voir en quoi on va l'utiliser, comment on va l'utiliser cette information-là. Puisqu'on entre dans la troisième phase, et la troisième phase, elle consiste à lui écrire, à rentrer en contact avec cette personne. Alors sur Viadeo, c'est simple, parce que sur Viadeo, à partir du moment où vous êtes membre premium de Viadeo, vous pouvez écrire à n'importe qui dans le réseau. D'accord ? Donc là, vous avez un moyen d'entrée qui est extrêmement facile. Sur LinkedIn, c'est plus compliqué, parce que pour écrire à quelqu'un en fait, sur LinkedIn, il faut, qu'on ne connaît pas, avec lequel on n'est pas en relation, il faut passer par l'inmail. L'inmail est une fonctionnalité payante de LinkedIn, d'accord ? Donc du coup, si vous êtes en membre gratuit en fait, de LinkedIn, bon, on va essayer de trouver d'autres manières de le faire. Première manière, si la cible est un contact de niveau 2, donc si vous avez un contact commun, en fait, tout simplement, bah, vous identifiez le contact commun, et ensuite, on va le faire à l'ancienne, je prends mon téléphone, j'appelle mon contact, alors il faut évidemment que le connecteur, je le connaisse suffisamment pour pouvoir le faire, et globalement, j'appelle mon contact, je lui dis, ben voilà, je voudrais rentrer en contact avec telle cible, telle personne, on dit pas cible, telle personne, pour lui parler de tel sujet, ou l'inviter à un truc, machin, on explique la démarche de manière très transparente, on se cache pas derrière notre petit doigt, on est très transparent, en fait, par rapport à notre connecteur, et on lui demande s'il la connaît suffisamment pour pouvoir nous mettre en relation. Et après, on fait une demande de mise en relation classique, c'est-à-dire que souvent, c'est le connecteur qui va envoyer un mail aux deux en disant bah, « je vous invite à rentrer en contact l'un avec l'autre parce que vous avez des synergies à développer sur tel sujet, en fait, par exemple. » D'accord ? Donc ça, c'est ce qui fonctionne le mieux. Ce qui ne fonctionne absolument pas, c'est la demande de mise en relation dans LinkedIn. C'est une usine à gaz et les gens ne savent pas comment l'utiliser. Les gens qui reçoivent votre demande de mise en relation ne savent pas quoi en faire. Donc ça ne sert à rien de vous épuiser là-dessus, en fait. Donc ça, c'est le premier cas de figure. Il va être rare parce qu'il y a beaucoup de conditions à remplir en fait, pour que ça fonctionne. En revanche, quand les conditions sont remplies, c'est ce qui va être le plus efficace. Deuxième manière de rentrer en contact dans LinkedIn, quand vous êtes membre d'un même groupe, vous pouvez écrire à n'importe qui dans le groupe LinkedIn sans passer par l'email. Donc ça, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas, en fait, qu'on ne sait pas en règle générale, mais du coup, ça c'est une ressource qui est intéressante. Donc pour vous, ce que ça veut dire, c'est les groupes qui vont être le plus intéressants, ça va être des groupes dans lesquels vous allez trouver des grappes en fait, de prospects potentiels. Donc ça, c'est une deuxième manière d'entrer en contact. Et la troisième manière, c'est la demande de contact classique. Donc je contacte quelqu'un en lui demandant d'être en contact et après, je pourrais lui proposer quelque chose. On a vu que les deux derniers ressorts passent par un mail et en fait, il y a une formule qui fonctionne en fait pour écrire un mail efficace sur ces réseaux et qui va faire toute la différence. C'est la formule du « vous, je, nous », qui n'est pas sans nous rappeler les lettres de candidature, en fait, d'accompagnement de nos profils. Ben, on va les retrouver. Il y a une raison pour laquelle on nous forçait à faire ça, c'est qu'elle marche, en fait, cette formule-là. Le « vous, je, nous », et le « vous », il est en gros, parce qu'en fait, la manière dont on commence, c'est on parle de l'autre. Ensuite, très rapidement, je dis « je », et le « je », on n'a même pas besoin de passer beaucoup de temps parce qu'il est déjà dans notre titre, en fait. Quand on a bien travaillé le titre de notre profil, on a déjà le « je » et ce que l'on peut faire ensemble, en fait. Et là, j'ai remis un mail que j'avais reçu en 2013, hein, je l'aime tellement que je l'ai gardé, de quelqu'un qui m'avait contacté, qui faisait de la location de salle à Nice, en fait. Et c'est exactement la formule qu'elle a écrite. Donc elle commençait vraiment, le « vous », il était simple, hein, « bonjour ». Donc ligne de sujet était ma ligne, hein, « formation réseaux sociaux ». Moi, je suis formatrice, donc forcément, « formation réseaux sociaux », j'ouvre. Hein. « Bonjour, j'ai vu que vous aviez effectué une formation à Paris sur les réseaux sociaux à laquelle je n'ai pu assister. Pensez-vous en organiser une dans la région de Nice ?» Donc on est bien sur un « vous », le « vous » malin, le « vous » qui entre en matière. Et souvent, ce n'est pas du tout les mails qu'on reçoit. Les mails qu'on reçoit, c'est « je fais ça et j'aimerais vous rencontrer pour vous pitcher et vous vendre mon offre ». Ben non. En fait, la réaction qu'on a tous, c'est qu'on n'a pas forcément envie d'être pitché, en fait, tout simplement. Donc le « vous, je, nous », quand on arrive, ça prend un peu plus de temps qu'un mail classique, mais c'est beaucoup plus efficace. Et évidemment, pour faire un bon vous, il faut avoir fait une bonne découverte en fait, du profil de votre cible. L'attraction, c'est simple, votre objectif. Donc l'attraction, c'est je veux que les gens viennent à moi, qu'ils rentrent en contact avec moi. Donc je veux recevoir des appels entrants, en fait, hein, ou des mails entrants, ou des demandes de contact entrants en disant j'ai besoin de vous. Donc votre enjeu, c'est vraiment de devenir un référent sur une expertise précise. Et ça passe par deux leviers. Je partage de l'actualité autour de mon expertise ou de mes expertises. Et je travaille mon réseau, j'oriente mon réseau dans une logique d'écosystème. Donc ça fait complètement écho à ce qu'on a vu tout à l'heure, en fait, dans le travail du profil, le partage d'informations et puis l'orientation du réseau. On est vraiment dans cette logique-là. Donc c'est pour ça qu'on ne passe pas plus de temps là-dessus, puisqu'on l'a vu tout à l'heure. Et aussi, je vous invite à aller voir Viadeo parce qu'ils ont la plateforme freelance en fait qu'ils ont lancée il y a plus d'un an maintenant. Et ils peuvent vous la présenter en fait. Donc c'est une plateforme sur laquelle on peut trouver des missions. L'année dernière, ils avaient une offre spéciale pendant le salon des micro-entreprises. Alors j'ai pas eu le temps, le salon SME pardon, j'ai pas eu le temps de vérifier avec eux s'ils la reconduisaient cette année, mais je vous invite en fait à aller voir leur stand. On va voir maintenant, on va finir sur Twitter, hein, comment j'utilise Twitter pour faire rayonner votre expertise, pour notre expertise et pour me rapprocher d'influenceurs. Donc vous étiez à peu près 30-40% en fait à utiliser Twitter déjà, donc on va passer le sondage. Et en fait, le point clé quand vous utilisez Twitter, c'est qu'en fait l'approche de Twitter, elle se fait en plusieurs étapes. C'est-à-dire que si vous ouvrez votre compte Twitter maintenant et vous dites « Moi, Twitter, je veux que ça me permette de me rapprocher d'influenceurs tout de suite », la vie va être un peu compliquée. Et moi, ce que je vous recommande dans Twitter, parce que Twitter, il y a quand même un langage assez particulier, c'est qu'en fait, Twitter, on l'approche en quatre phases. On a une première phase qui est une phase d'observation, et ça tombe bien parce que c'est un bon outil de veille. Donc vous pouvez très bien vous dire à l'issue de cette conférence, ben moi ce que je vais faire sur Twitter, c'est uniquement l'utiliser pour m'approprier en fait le langage Twitter pour comprendre et pour faire ma veille. Donc globalement la manière dont je vais le faire, c'est faire ma veille en fait sur Twitter. Une fois que je commence à bien comprendre le langage Twitter, je vais commencer à tweeter et pour tweeter, je vais commencer par retweeter en fait. Donc identifier des tweets que j'ai trouvés intéressants et les repartager. Ce que je peux faire également, quand j'ai trouvé l'article intéressant que je partageais sur LinkedIn et sur Viadeo, souvent vous avez un lien de partage sur Twitter, donc il me suffit de cliquer en fait sur ce lien pour le repartager. Donc on va voir, c'est la deuxième étape. Troisième étape, des tweets from scratch. Hein, donc là, j'écris complètement le tweet dans son intégralité. Et la quatrième étape, parce que c'est ce qui est le plus compliqué en fait, ce sont les live tweets. Donc c'est je suis en conférence et je suis en conférence sur le salon SME et je commence à tweeter en fait pendant la conférence en partageant le slide que je viens de voir. Donc je prends en photo le slide, je fais. Donc ça demande un petit peu plus de pratique en fait, tout simplement. Donc on va y aller par étapes. L'observation, alors la bonne nouvelle avec l'observation, si vous dites moi je veux juste comprendre comment ça marche, vous pouvez très bien faire une recherche sur Twitter sans avoir de compte Twitter. Donc ça, c'est tout à fait possible. Donc là, vous avez l'URL. Si vous vous connectez sur twitter.com/search, vous allez avoir apparaître en fait cet écran-là. Et dans cet écran-là, il suffit en fait de taper un mot-clé, tout simplement. Comme on fait une recherche sur Google, on fait une recherche sur Twitter. Et là, vous allez voir apparaître en fait les résultats. Donc ça, c'est le premier point si vous n'avez pas du tout envie de créer votre propre compte. Vous vous dites, bon, ça, je vais aller un petit peu plus loin et je veux créer mon compte. On va passer au tweet simple. Donc le tweet simple, c'est le retweet. Sur n'importe quel tweet, vous avez ce petit symbole circulaire en fait, qui nous permet de retweeter. Je clique dessus et en fait le tweet est retweeté. Donc ça, c'est une première option qui vous est proposée. Deuxième option, c'est le lien de partage. Donc sur beaucoup de médias maintenant en ligne, vous avez la possibilité de partager directement sur Twitter. Là aussi, il suffit de cliquer sur le bouton tweeter ou Twitter ou juste le logo, une fenêtre s'ouvre et dans cette fenêtre-là, en fait, vous voyez que votre tweet a déjà été préparé. En fait, on a tous les éléments de langage du tweet plus le lien vers l'article puisque l'enjeu ici, il est bien de partager l'article que vous venez de voir. D'accord ? Et c'est pour ça qu'il y a une richesse en fait sur Twitter. troisième étape, donc là on commence vraiment à se sentir beaucoup plus à l'aise en fait sur Twitter. On va faire des tweets originaux, vieil anglicisme, hein, des tweets qu'on va créer nous-mêmes. Et en fait, là, vous avez la formule du tweet gagnant quand on est dans un univers professionnel. Un tweet qui fonctionne bien, il contient du texte, un lien vers un article intéressant, l'article dont vous parlez, ou une étude intéressante, en fait, du contenu intéressant. Un hashtag, au moins un hashtag, entre un et trois hashtags, donc ces fameux mots qui sont précédés d'un dièse et qui sont cliquables. D'accord. Et le hashtag, c'est un raccourci vers un résultat de recherche. Donc quand je clique sur un hashtag, je vois tous les tweets qui ont été émis et qui contiennent ce hashtag, en fait. Hein. Donc c'est à ça que ça sert. Donc quand vous rajoutez des hashtags à vos tweets, comme vous avez des tas de gens en fait, sur la plateforme qui sont en veille sur les mots-clés, ben, vous augmentez les chances pour que votre tweet soit trouvé, en fait, soit vu. Et vous mentionnez un autre compte. D'accord. Donc là, on a vraiment la formule gagnante et vous avez l'exemple à côté, tout ça dans 120 caractères. Alors bientôt, très bientôt, donc c'est en cours, les mentions et les liens ne compteront plus dans les caractères, en fait. Twitter est en train d'implémenter ce changement. Le bonus en plus, c'est si vous rajoutez une photo. C'est pour ça que je vous donnais l'exemple tout à l'heure pendant la conférence. Je prends une photo en fait d'un slide et je vais tweeter autour de ce slide-là. Quand vous rajoutez des photos, ben, tout simplement parce qu'il y a un impact visuel, on est sur un web de plus en plus visuel, donc les photos ont de plus en plus d'importance. Quand vous rajoutez une photo, vous avez plus de chances en fait que les gens s'arrêtent sur votre tweet pour le lire, voire le retweeter ou y répondre. Donc là, vous avez un parfait exemple en fait à côté, hein. How to, donc c'est là où on thématise. Comment faire une demande de mise en relation parfaite sur hashtag LinkedIn. Le lien vers l'article, hein, quand vous voyez des URL du type ow.ly, ben, en fait, ce sont des liens raccourcis. On voit souvent bit.ly. Quand je clique sur ce lien, je me retrouve sur un lien beaucoup plus long, une page qui a un lien beaucoup plus long, en fait, souvent les billets de blog, par exemple. Et là, via la citation, la mention en fait, de l'auteur de l'article et deux hashtags qui sont rajoutés à la fin. Donc là, on a une formule gagnante, en fait. Donc quand on se dit je veux faire des bons tweets. Et le live tweet, alors les conditions pour faire un bon live tweet, en fait, il faut préalablement, et c'est pour ça que sur tous les slides, en fait, vous avez le hashtag du salon qui est rappelé, hein, hashtag salon SME, vous identifiez le hashtag de l'événement. Vous pouvez identifier le compte Twitter de l'événement. Si pendant avant la conférence, si vous allez suivre une conférence, regardez si le conférencier est sur Twitter, si vous identifiez son identifiant également. Donc tout ça de manière à faire des tweets qui correspondent plus à une formule gagnante, en fait, tout simplement. N'hésitez pas à rester en veille sur ce hashtag, le hashtag du salon, de manière à pouvoir retweeter en live pendant la conférence ou pendant le salon, répondre à certains, et c'est là qu'on commence à échanger avec les autres, en fait, et qu'on commence aussi à rentrer. Alors dans les mentions, c'est quand on mentionne un compte, c'est là qu'on travaille la stratégie d'influence. Quand vous commencez à interagir avec d'autres tweetos, puisque c'est comme ça qu'on les appelle pendant l'événement, c'est là que vous allez aussi développer votre réseau au sein de l'événement, voire toucher des influenceurs. Et n'oubliez pas d'inclure évidemment le hashtag pendant tous vos tweets, surtout vos tweets, en fait. On a vu énormément de choses en fait pendant cette conférence. Alors, comme je vous l'avais dit en entrée, hein, il y a certaines choses qui vous parlent tout de suite et d'autres qui ne vous correspondent pas. Donc vous allez un peu faire votre liste de choses que vous avez envie de faire pour vous. On va y aller par étapes là-dessus. Hein. Si vous en êtes au tout début, ben, ce n'est pas la peine de vous dire je veux faire tout d'un coup. On va vraiment y aller par étapes. Et en revanche, ce qu'il faut, c'est des étapes quotidiennes. C'est ce qui va le mieux fonctionner. En conclusion, LinkedIn, Viadeo, Twitter, réellement facilitant en fait quand on est entrepreneur, quelle que soit son activité et sa cible de clientèle. Et ce qu'on a vu au début, hein, si je m'adresse à une clientèle grand public, je vais peut-être rajouter du Facebook, je vais même sûrement rajouter du Facebook, voire maintenant de l'Instagram en fait, si vous êtes sur du visuel, mais pour faire la promotion en fait de votre activité. Pour faire émerger votre expertise sur LinkedIn et Viadeo, on a vu trois leviers, hein, un profil bien travaillé, partager régulièrement de l'actualité et bien orienter mon réseau, ma liste de contacts directs sur LinkedIn et sur Viadeo. penser quand j'ai une problématique de chasse. Donc, j'ai identifié clairement l'entreprise que je cible pour vendre un produit ou un service. Ben, penser à bien utiliser LinkedIn et Viadeo. Alors après, les tactiques qu'on a vues, on peut aussi les utiliser indépendamment. À la recherche avancée, une fois que vous avez goûté à la recherche avancée, vous allez les utiliser pour plein d'autres choses. Et puis sur Twitter, hein, l'importance d'avoir une logique graduelle. Hein. Je commence par la veille, ensuite je fais du retweet. Ensuite, je fais des tweets from scratch à partir de rien. Et ensuite, je vais faire du live tweet. Après, vous pouvez vous essayer au live tweet tout de suite, mais faites-le sous un pseudo. Ne prenez pas trop de risques au départ. On peut tout supprimer. Apprenez tout de suite sur ces réseaux. Ce qui est important, c'est d'apprendre à supprimer ce qu'on a fait aussi. Savoir où on va pour regarder ce qu'on a fait et puis le supprimer également. Pour finir, si vous souhaitez recevoir le support, donc c'est la première année en fait que je mets à disposition, mais si pour recevoir le support, il vous suffit que vous alliez sur cette URL et je vous demanderai juste de rentrer votre email, je l'enverrai à la fin de la semaine, donc ne tardez pas trop. Donc vous allez sur bit.ly/valmarchSME. Attention aux majuscules, parce que si vous ne respectez pas les majuscules, en fait, vous n'allez pas trouver l'URL en fait, du formulaire. Et pour ceux que ça intéresse, je vous attends à 11h30, donc en 15 minutes, sur le stand de Duno pour une séance dédicace. Et le stand Duno, il est quand vous partez à droite, il est juste en face. En fait. Vous allez tout droit dans le salon et vous allez tomber sur le stand Duno. Je pense qu'on a le temps pour 2 ou 3 questions. Alors, oui. D'abord, on a 3.
Oui, bonjour. Pour les mots-clés, par exemple, si on prend le mot-clé réseaux sociaux, oui. Vaut mieux avoir un mot-clé en français ou en anglais ? Parce que là, je vois que c'était plutôt social media.
Bah, en fait, ce qui se passe, c'est que ça dépend de ce qui est utilisé par notre cible. Donc, un indicateur, c'est d'aller dans Google Trends. Faites comme ce qu'on fait en référencement naturel d'un site. Donc, vous pouvez aller dans Google Trends. Faire une recherche sur la France et voir si c'est en France, si c'est plutôt, est-ce qu'il y a plus d'intensité sur réseaux sociaux ou social media et dans le doute, notamment sur les expertises, on peut lister une expertise en français et la lister en anglais également. Donc vous ne privez pas de ça non plus en fait. Donc ce qui peut être important, c'est de dupliquer à certains endroits de votre profil en fait.
D'accord, merci. Deuxième question, c'est sur Twitter. Est-ce qu'on peut modifier le tweet
comme c'est... Si vous avez toujours fait pas. Une boulette, il faut supprimer ouais, et il faut d'habitude. Le refaire en fait.
Ok, ouais, merci. Voilà, super.
Alors il y avait une question ici aussi et une dans le fond, donc ce sera les deux. Alors la question c'était est-ce que l'on peut avoir un profil en anglais et en français sur LinkedIn ? Oui, absolument. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il est conseillé de faire si vous avez deux cibles différentes. Donc qu'on s'entende bien, hein, c'est pas un profil en bilingue, mais en fait vous faites une version de votre profil en français. Et en fait, alors je vais juste vous décrire, je vais faire du yoga de LinkedIn. Quand vous êtes sur votre profil LinkedIn, sous votre carte de visite, vous avez un bouton bleu dans lequel on a « voir le profil en tant que ». Et à droite, vous avez une petite flèche qui pointe vers le bas, qui vous donne un menu déroulant. En fait, vous activez, vous passez votre souris sur la flèche et vous descendez, vous avez créé le profil dans une autre langue. D'accord. Et quand vous arrivez sur créer le profil dans une autre langue, en fait, en fonction de ce que LinkedIn pense être votre langue de création de profil, donc souvent quand vous avez créé votre profil en utilisant l'interface linkedin.com et pas linkedin.fr, LinkedIn pense que votre profil par défaut est en anglais, quelle que soit la langue dans laquelle vous l'avez écrit en fait. Ça, c'est le profil principal. Et donc, quand vous arrivez dans cette interface, il va vous demander de choisir la langue dans laquelle vous allez créer votre profil. Donc, si votre profil principal, c'est de l'anglais pour LinkedIn, il va vous proposer le français. D'accord. Et l'autre question, c'est est-ce que les contacts se dupliquent, les contacts suivent ? Donc, c'est juste la traduction, en fait. Enfin, la traduction n'est pas le bon terme, parce que c'est à vous de le traduire, mais c'est la vision, en fait, de ce profil. Donc, les gens qui parlent français verront votre profil en français. Les gens qui parlent anglais verront votre profil en anglais. Si votre profil français est le profil prioritaire, primaire, tous les autres gens, ceux qui parlent pas français et anglais, verront le profil en français, en fait. D'accord ? Le profil primaire, prioritaire, c'est celui qui détermine la vision de tous ceux qui parlent en dehors des langues que vous avez définies. C'est clair ? Vous expérimenterez. C'est bien expliqué dans le livre. Enfin, je vous dis ça, mais... Donc, je crois qu'il y avait une question dans le fond, et puis on reviendra sur monsieur.
Bonjour, question de Béotien, qui en a deux activités très différentes. Est-ce qu'on peut avoir deux profils différents?
Je ne vois pas qui pose la question. Ah oui, d'accord.
Excusez-moi.
En fait, si vous avez deux activités complètement différentes, la première question à se poser, c'est est-ce que pour ces deux activités, je vais trouver mes clients sur LinkedIn ou Viadeo? Donc ça, c'est la première question. Si c'est le cas, moi, le conseil que je donne toujours, vous voyez si c'est adapté pour vous, hein, mais le conseil que je donne toujours, c'est il y a forcément une activité pour laquelle on a une priorité de recrutement de clients. Si c'est le cas, c'est celle qu'on va mettre en avant. Donc, dans le titre, on a intérêt, ou bien on arrive à mettre les deux activités, mais parfois, c'est un exercice d'équilibriste. Donc, il vaut mieux dire, je fais ça. D'accord, c'est mon activité principale, même si dans la vraie vie, ce n'est pas le cas. C'est peut-être l'activité de développement, en fait, pour vous. Et vous avez une activité qui est la vache à lait, en fait, qui est déjà établie. Les gens viennent vous voir pour ça, mais vous voulez plus du tout en faire la promotion. Donc, dans ces cas-là, vous la mettrez dans votre profil, mais sans mettre l'emphase, en fait, sur le titre, par exemple. Monsieur ?
En fait, c'est une question qui a un peu relation précédente. Et moi, j'ai un profil, mais qui a un CV, en fait. Et vous avez dit au début, il ne faut pas que ce soit un CV pour vendre son entreprise. Je crée mon activité. Est-ce qu'il faut que je recrée un deuxième profil? Mais avec la question, c'est est-ce que c'est à nouveau avec mon nom? Est-ce que je peux avoir deux profils avec le même nom, en fait, des deux côtés? Ou est-ce qu'il faut que je réoriente complètement mon CV pour en faire un profil, en fait, qui va promouvoir, en fait, mon activité? Et comment je gère aussi mes contacts? Là, j'en ai 1000 ou 2000, en fait. Est-ce qu'il faut que je les écrète, en fait, que je supprime les contacts qui n'ont plus trait, en fait, à ma nouvelle activité? Comment je fais pour transférer mes contacts vers un nouveau profil?
Ouais, alors, ne créez pas un deuxième profil. Donc ça, c'est la messe est dite là-dessus, parce que vous avez enquillé, en fait, entre 1000 et 2000 contacts qui sont une richesse, même si vous n'en avez pas forcément pleinement conscience maintenant, en fait, parce qu'ils vont vous aider à identifier d'autres personnes. Donc, la meilleure solution pour vous, c'est que vous retravaillez votre profil de manière à ce qu'il serve vos objectifs maintenant. Donc, vous présentez l'activité que vous allez lancer. Donc, ça, c'est le premier point. Et ensuite, l'antérieur, dans les expériences précédentes, en fait, vous allez nettoyer. Garder les expériences précédentes, mais enlever toute la copie qui fait vraiment positionnement CV, en fait, où vous parlez à un recruteur, pour mettre en avant, surtout dans l'expérience précédente, s'il y a des points d'accroche qui vous permettent de vendre ce que vous êtes maintenant, en fait. D'accord ? Donc, en fait, en d'autres termes, vous allez regarder votre profil en vous disant quels sont les éléments qui m'aident dans la promotion de mon activité présente, en fait. Vous allez garder ça et le reste, vous allez nettoyer. Et surtout, vous allez commencer en termes de mots à vous orienter vers des clients et non pas pour des recruteurs, parce qu'on ne parle pas de la même manière.